carrefour.fr.
Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowania.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Vladimir Poutine a fait de la grandeur retrouvée de la Russie un axe majeur de sa politique. Mais la Russie a-t-elle retrouvé cette grandeur perdue au lendemain de la chute de l'URSS? Certes, le pays connaît une croissance soutenue de l'ordre de 6% qui lui a permis de retrouver son PIB d'avant la crise. Certes, les cours élevés des hydrocarbures remplissent les caisses de l'État et permet à la Russie d'exercer la diplomatie du gaz. Pour autant, la diplomatie russe est-elle audible? La Russie joue-t-elle de nouveau dans la cour des grands? Le pays est-il devenu, redevenu séduisant? Bonjour Anne de Tinguy.
Bonjour.
Vous avez dirigé dans la collection Serré Autrement un ouvrage collectif qui s'intitule Moscou et le monde, sous-titré L'ambition de la grandeur, une illusion. Poser la question, c'est déjà y répondre un peu?
Non, pas nécessairement, nous allons y revenir.
Evgenia Ovitchkina Dobriden. Vous êtes historienne au MGIMO. En russe, ça veut dire quoi, MGIMO?
Institut, Московский государственный институт международных отношений.
Et en français, on peut le traduire à peu près comme l'Institut d'État moscovite des relations internationales.
Oui, juste.
Bonjour Alain Guilmol.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste à La Croix, où vous suivez notamment la Russie. Et vous venez de publier aux éditions des Petits Matins, Gazprom, le nouvel empire. Gazprom, c'est un élément clé de la grandeur de la Russie aujourd'hui.
Ben oui, tout à fait. Ça, c'est l'instrument même du retour de la Russie sur le plan international, oui.
Anne de Tinguy, sans refaire toute l'histoire de la chute de l'URSS jusqu'aux années Poutine, la Russie revient de loin.
Bah, la Russie a évolué de façon absolument extraordinaire depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 et depuis que M. Poutine est arrivé au pouvoir en 2000. Alors, les évolutions ne sont pas simplement dues, évidemment, à M. Poutine. Il y en a d'autres qui sont dues, notamment, à la hausse du prix des hydrocarbures qui a permis à la Russie de retrouver une santé économique et financière qui pèse sur son évolution en politique étrangère.
Quand je dis qu'elle revient de loin, ça a été un pays meurtri, déstabilisé, les années Gorbatchev, les années Yeltsin.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu l'effondrement d'un monde. Et donc, ça n'a pas été seulement un effondrement d'un empire, ça a aussi été un très grand bouleversement pour toutes les populations des nouveaux États indépendants. Donc, il y a eu des politiques qu'on a pensées longtemps être des politiques de transition vers la démocratie, vers un nouvel ordre international, vers une économie de marché. Bon, maintenant on s'est rendu compte que cette analyse en termes de transition n'était probablement pas celle qui convient, mais ce qu'il y a de clair, c'est que pour toutes les populations de cet immense espace, tout cela représente des bouleversements absolument considérables.
Evgenia Ovitchkina, que pensent les Russes de leur pays aujourd'hui? Ont-ils l'impression que la Russie a retrouvé cette fameuse grandeur qui était la sienne du temps de l'URSS?
Vous savez, juste, les Russes sont plutôt à la recherche de la grandeur. Ils savent très bien que c'est un peu perdu, c'est un peu vieilli, la grandeur des temps anciens, non seulement de cette grandeur impériale, mais la grandeur soviétique. Ils conçoivent le monde d'une manière tout à fait différente pour le moment et ils croient qu'il y ait une superpuissance qui naît, ou hyperpuissance pour reprendre le terme de Hubert Védrine, mais qui n'est pas seulement les États-Unis, mais l'Occident à part entière, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union européenne, qui essaient de gérer le monde, qui, avec toutes leurs divergences, sont quand même convergents et sont unis en ce qui concerne la pression sur l'état du monde, la volonté de faire bouger le monde comme elles le veulent. Et c'est juste plutôt l'impression des Russes.
Est-ce que les Russes ont retrouvé un peu confiance dans leur pays? Vous diriez ça?
Oui, c'est ça. Ça, c'est juste, je le crois.
Anne de Tinguy, comment la Russie voit le monde aujourd'hui par rapport aux États-Unis, par rapport aux puissances émergentes?
Ça rejoint l'idée de grandeur que Evgenia Bichkina vient d'évoquer il y a un instant et que j'évoque dans mon ouvrage. Je crois que M. Poutine, puisque le bilan aujourd'hui est quand même un bilan de ces 8 années où M. Poutine a été au pouvoir, il a eu certainement un projet de puissance qui était l'idée qu'il était normal que la Russie retrouve dans la vie internationale un poids qu'elle a eu beaucoup moins dans les années 90. Alors l'analyse qui est à la mode en Russie, c'est que tout ça est la faute de Monsieur Yeltsin, ce qui est probablement un petit peu exagéré. C'est probablement aussi lié aux conséquences de cet effondrement que nous évoquions en début d'émission. Je crois que Monsieur Poutine ne voulait pas seulement la puissance, il voulait aussi la grandeur. Ce qu'il veut, c'est que la Russie pèse sur une redéfinition de l'ordre international, qu'elle compte dans la redéfinition de ce qu'il appelle un ordre international plus juste. Et c'est là où intervient les équilibres entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, les pays occidentaux. Les Russes estiment que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas que les Occidentaux qui comptent. Et notamment, il n'y a pas que les États-Unis. Ils critiquent très virulemment à maintes reprises l'unipolarité, l'unilatéralisme de la politique américaine. Et il explique que ce qui compte dans le monde d'aujourd'hui, ce sont aussi et peut-être avant tout les puissances émergentes. Et que d'autre part, le poids de l'économie des matières premières doit être très important et que pour lui, il fait de ces données économiques une lecture politique qui donne, entre autres à la Russie, un point important dans la vie internationale.
Alors justement, un des attributs de la puissance russe, c'est le pétrole et le gaz dont les prix atteignent des sommets, on l'a déjà dit. Alain Guillemot, alors est-ce que vous pouvez nous resituer en quelques mots l'importance des hydrocarbures et plus généralement celui des matières premières dans l'économie russe ?
Oui, c'est-à-dire on a quelquefois l'habitude de dire que la Russie c'est une sorte d'Arabie Saoudite bis, du point de vue du pétrole, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes réserves, mais la particularité du secteur pétrolier c'est qu'il est divisé en plusieurs sociétés, dont certaines sont privées et dont certaines appartiennent à l'État, donc ça représente un vaste complexe de sociétés.
Elles sont de moins en moins privées.
De moins en moins privées, effectivement, puisque durant les 8 années de Poutine, une bonne partie du secteur pétrolier est repassée dans le giron de l'État. Ça c'est un aspect des choses. L'autre aspect des choses c'est le secteur du gaz, qui lui est concentré quasiment tout entier entre les mains d'une seule société qui s'appelle Gazprom et que donc nous avons étudié dans ce livre parce que c'est un espèce de géant, de monstre peut-on dire, tellement il coiffe une multiplicité d'activités et de sociétés en cascade qui en font vraiment un géant de l'économie russe.
C'est un état dans l'état, Gazprom ?
Oui, un état dans l'état, et puis c'est 8% du PIB à soi tout seul, c'est 400 000 employés et puis c'est surtout une société qui a le monopole des exportations de gaz, donc des rentrées de devises pour le secteur gazier et ça représente une manne vraiment très importante pour l'économie russe.
Alors sur le plan de l'économie justement, Anne de Tinguy, quel est le poids réel de la Russie ? On dit toujours que les infrastructures sont un peu vieillottes, qu'il y a peu d'investissements étrangers en dehors du secteur pétrolier, que le secteur manufacturé est faible. Quel est le poids réel de la Russie sur le plan économique ?
Je le disais il y a un instant, la Russie a retrouvé une santé économique et financière de façon tout à fait spectaculaire grâce à ce taux de croissance, vous l'avez rappelé, de l'ordre de 6% par an depuis 1999, 8% en 1997, donc c'est un phénomène qui est tangible quand on est à Moscou, c'est absolument spectaculaire, on voit des immeubles, des gratte-ciels qui poussent partout à tous les coins de rue, c'est tout à fait tangible. Ceci étant, dans le monde, le poids de l'économie russe est encore faible. Il n'y a pas nécessairement, enfin là je me base sur des analyses d'économistes, une modernisation de l'économie de la Russie qui permettrait à la Russie d'être une des grandes économies dans le monde de demain. Si on regarde par exemple les exportations de la Russie, c'est des exportations qui sont très 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 majoritairement dominées par le pétrole, le gaz, les matières premières et qui accordent très peu de place pour des machines, donc pour des industries à valeur ajoutée. Et semble-t-il, il n'y a pas suffisamment d'investissement justement dans la modernisation de différents secteurs de l'industrie qui pourraient permettre à la Russie de devenir une des grandes puissances économique du monde de demain.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Alors on va laisser l'économie de côté pour l'instant, en tout cas pour parler de la diplomatie, de la politique étrangère. Vladimir Poutine a voulu que la Russie ait une place digne d'elle dans le monde. Si on prend l'exemple du Kosovo, la Russie était contre l'indépendance du Kosovo. Elle a fait savoir qu'elle était contre. Le Kosovo est devenu indépendant. Et il n'y a pas vraiment de suite. Alors, est-ce qu'il y a, selon vous, et vous êtes russe et vous êtes mieux placé pour le juger, un vrai poids diplomatique et politique de la Russie dans le monde, ou est-ce que, tout compte fait, le discours est un peu plus fort que les actes ?
Bien sûr, la puissance, en général, quand même, c'est la notion relationnelle. Donc, on peut se croire puissant et grande puissance, mais personne ne vous écoute. C'est juste, parfois, le cas de la Russie.
Oui.
Parfois. parce que si la Russie pèse encore peu dans la construction du nouvel ordre international, c'est que quand même, elle pèse quelque chose déjà, et c'est très important, dans la discorde, dans le désaccord. Quand il y a le désaccord, ça pèse quand même, comme c'était le cas de l'affaire de l'Irak en 2003. Quant à Kosovo, devant l'Occident consolidé, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne va pas faire la guerre pour le Kosovo, bien sûr, et surtout ce qu'elle acclame toujours sur la scène internationale, c'est l'intangibilité des frontières, c'est le statu quo, et on s'attendait déjà dans les diplomaties étrangères qu'après la reconnaissance de Kosovo par les Occidentaux, la Russie va peut-être reconnaître l'Abkhazie, l'Ossétie et Transnistrie, mais c'est pas le cas. Parce que juste ce que veut la Russie, c'est la stabilité qui lui était indispensable pour son développement. Et c'est juste son premier point. Et donc, s'il n'y a pas de puissance sans la gloire, elle n'a peut-être plus de gloire, mais elle reste toujours le membre du Conseil permanent de l'ONU. Et elle peut faire quand même quelque chose. Dans le cas de Kosovo, non.
Alors, la Russie se définit souvent, Vladimir Poutine le dit régulièrement, et on peut imaginer que Dmitri Medvedev reprendra à son compte ce thème, que la Russie se définit comme un monde à part, et qu'il y a la Russie, et puis il y a le reste du monde, et notamment l'Occident, et l'Occident, c'est pas la Russie. Qui veut répondre à cette, à la Guilmol?
C'est vrai que la Russie est toujours tiraillée entre deux visions, enfin sa vision, on peut dire, européenne, et puis sa vision asiatique, ou qu'on appelle quelquefois eurasiatique, c'est-à-dire qu'il y a au sein des élites, traditionnellement au sein des élites russes, une sorte de schisme entre les occidentalistes, disons ceux qui s'identifient à l'Europe et qui se voient dans une relation assez étroite avec l'Europe, et puis une autre partie des élites plus slavophiles, plus eurasiatiques, qui voient son développement dans un ancrage dans les fabuleuses ressources de la Sibérie et puis un développement autonome par soi-même, la Russie étant une puissance en elle-même.
Est-ce que la Russie, Anne Le Tinguy, a les moyens d'être seule, je dirais pas contre tous, mais presque contre tous, contre l'Occident, et pas non plus avec, ou en tout cas directement avec les puissances émergentes?
Ah ben justement, ça c'est la grande question. Et je crois que justement, la Russie n'a pas les moyens d'être seule. Et que si elle reconnaît qu'au lieu d'être une grande puissance, elle est une puissance moyenne, ça détermine sa politique étrangère. Parce que ça veut dire qu'elle a davantage besoin d'une stabilisation de son environnement international. Elle a davantage besoin de s'appuyer sur des partenaires, sinon des alliés, et de s'intégrer dans le monde, que ce soit dans son environnement européen ou asiatique. Je voudrais juste revenir une seconde sur ce qu'a dit Evgenia. En définitive, la Russie avait la possibilité de s'imposer soit en s'opposant, soit en coopérant. Et c'est là où on voit bien que le discours de M. Poutine a souvent été de s'opposer. Alors, quand il a fait des déclarations qui apparaissent parfois excessives dans ses critiques à l'égard des États-Unis, des Européens, etc., il s'est imposé en s'opposant, mais pas par le biais de la coopération. Et que toujours quand on réfléchit à la grandeur de la Russie, eh bien, en définitive, est-ce que la Russie est véritablement devenue un acteur responsable de la vie internationale? Est-ce qu'elle est devenue un fournisseur de sécurité? Il est honnêtement difficile de répondre oui.
Et ce que vous dites, c'est que la Russie a plus un pouvoir de nuisance qu'un pouvoir de force de proposition.
Oui, elle pourrait avoir un pouvoir de force de proposition, mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'a fait Monsieur Poutine. Il s'est davantage opposé qu'il n'a essayé de proposer. Et puis, d'autre part, et là, quand on écoute le discours des dirigeants russes sur la nécessité de tenir compte de leurs intérêts nationaux, ce qui est absolument normal pour chacun des pays, mais en fait, est-ce que Monsieur Poutine a véritablement tenté de régler les problèmes auxquels la Russie est confrontée aujourd'hui? Je fais par exemple référence à la sortie de l'Empire, ses relations avec ses partenaires de la communauté des États indépendants, notamment l'Ukraine, ou à la stabilisation de ses relations avec l'Europe. Ça pose beaucoup plus de problèmes, me semble-t-il, qu'il n'y a. y en a qui ne sont résolus.
Vladimir Poutine a dit souvent que la Russie devait être un élément du dialogue des civilisations, mais c'est vrai que c'est difficile à croire quand on voit la situation en Tchétchénie ou quand on voit la xénophobie ambiante un petit peu partout en Russie, notamment à Moscou. Est-ce que, même si les Russes ont retrouvé confiance en eux, vous nous le disiez au début de l'émission, Evgenia Bitchkina, est-ce que les Russes savent vraiment où ils veulent aller?
Vraiment, c'est difficile. Où va Russie? Elle va juste vers le capitalisme, c'est vrai. Parce que c'est la voie de transition vraiment énorme. Parce que comment on peut, ayant derrière vous l'handicap de 70 ans du communisme ou du socialisme assez primitif, aller jusqu'à capitalisme développé? Il faut avoir un grand délai de temps et c'est très difficile de créer le citoyen, la personnalité qui soit responsable d'elle-même. Et ça peut durer des générations, vous savez, parce que dans les sociétés occidentales, ça a duré déjà des générations et on va très vite. Mais on est sur le plan de la constitution de la société civile, ce qui est le plus important pour le développement normal de la Russie, c'est-à-dire pour qu'elle accède enfin à la démocratie, parce que on ne peut pas implanter la démocratie d'en haut. Il faut que ça renaisse d'en bas. Et donc, je crois que le capitalisme, l'administration qui est maintenant au pouvoir, il soit vraiment hostile, mais dans le délai de quelques dizaines d'années qui viennent.
Alors,
mais il faut patienter. On dit toujours en Russie, il faut vivre longtemps.
Alors, on évoquait un certain nombre de forces et d'inquiétudes de la Russie. Il faudrait aussi citer quelques points faibles. Alors, évidemment, la démocratie est difficile, la démographie déclinante. Le pays perd environ 700 000 citoyens chaque année. Une société qui, aujourd'hui, est quand même profondément inégalitaire. Gazprom, c'est un petit peu à l'image de la Russie, parce que c'est une société, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, Alain Guillemot, une société puissante, mais en même temps une société qui a bien des fragilités.
Oui, on a tendance quelquefois à dire que c'est une sorte de colosse au pied d'argile. Enfin, ce qui fait la force de Gazprom, en fait, c'est sa symbiose avec l'administration présidentielle, puisque c'est une société dont l'une des principales caractéristiques est qu'elle est, étroitement liée à l'entourage du président russe, qui l'a remodelée, qui a placé à la tête de Gazprom des gens qui sont très très proches de lui. Et on le voit, puisque Medvedev est lui-même ancien PDG de Gazprom, en passe de devenir le président russe. Donc c'est ça qui fait la grande force de Gazprom, c'est que c'est une société qui est dirigée, on peut dire, depuis le Kremlin. Alors maintenant, sa fragilité, il y a des fragilités dans la gestion, qui tiennent notamment au fait qu'il y a un sous-investissement dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de gisements gaziers. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, à l'horizon des 10 ou 15 prochaines années, on n'est pas sûr que Gazprom puisse fournir assez de gaz pour répondre aux nombreux contrats qu'il est en train de nouer. C'est paradoxal puisque c'est la société qui est la plus riche en gaz du monde, quatrième capitalisation boursière mondiale, un tiers des réserves mondiales quasiment qui sont dans le sol russe. Et pourtant, faute d'avoir mis en exploitation suffisamment de gisements, puisqu'il faut plusieurs années pour mettre en exploitation un gisement, il y a un risque que Gazprom manque de gaz.
Anne de Tanguy, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin en 30 secondes. Ce désir de grandeur qui est un désir manifesté par l'actuel président et probablement le futur et qui est un thème majeur de l'histoire de la Russie, c'est un signe de force ou de faiblesse?
Je crois entre les deux. C'est pas possible de répondre définitivement dans un sens ou dans un autre. Je crois que la Russie va se doter d'un nouveau président. Ce président, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qu'il pense en matière de relations internationales. On sait ce qu'il pense du Kosovo. Il a dit qu'il voulait avoir une politique active dans la CEI, mais bon, qui voulait avoir une politique indépendante. En fait, ça n'est pas très nouveau. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il veut. Il est clair que s'il veut faire des gestes pour se démarquer de la politique de M. Poutine, il y en a beaucoup qu'il peut faire et qui seront entendus immédiatement, en tout cas par les pays occidentaux d'une part, et par ses partenaires de la communauté des États indépendants, notamment par l'Ukraine d'autre part.
Anne de Tanguy, Moscou et le monde aux éditions Serré Autrement, Alain Guillemot, Gazprom, le nouvel empire aux éditions du Petit Matin, Evgenia Obichkina, M. Guillemot, Spasiba Bolshoï, merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci à Eliane Clancier, Jean-Marc Munier et Roland Kemener qui ont soit préparé, soit réalisé cette émission que vous pouvez réécouter, télécharger ainsi que les 5 dernières en cliquant sur le site RFI.fr, onglet Radio Émission Carrefour de l'Europe. Daniel Desescales, je vous souhaite une bonne semaine européenne.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.